soir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la polémique au sein de l'opposition congolaise au sujet des concertations nationales. Le MRC dénonce la volonté manifeste du pouvoir de persévérer dans la logique des concertations telle que convoquée par l'ordonnance présidentielle. Ce parti réagit ainsi à l'annonce du président du Sénat de la nomination d'un secrétariat technique et l'adoption d'un budget de ces concertations. Dans le même contexte, l'UNC demande au président du Sénat, qui est en même temps membre de l'opposition, de respecter les préalables fixés lors du dernier conclave de l'opposition. Comme deuxième sujet, nous parlerons de la baisse du niveau de l'enseignement et du taux de réussite aux examens d'État en RDC. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Joachim Diana Gikoupa. Il est éditeur et directeur de publication du journal La Colombe. C'est un journal qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir confrère.
Nous sommes également avec Juslin Lugula, rédacteur en chef du journal La Prospérité. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Juslin Lugula.
Bonsoir, bonsoir cher confrère.
Nous sommes également avec Patient Debaba Lupira, journaliste et reporter à la radio Le Messager du Peuple à Ouvira et correspondant de l'ONG Journaliste en Danger, ici à Grand Lac, au Sud Kivu. Bonsoir Patient Debaba Lupira.
Bonsoir confrère et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Café.
Bienvenue à tous dans cette émission. La polémique au sein de l'opposition congolaise au sujet des concertations nationales et la baisse du niveau de l'enseignement et du taux de réussite aux examens d'État en RDC figurent parmi les sujets qui ont largement été commentés par les journaux cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir, commençons cette revue de presse par la polémique autour des concertations nationales. On peut lire à la une du journal Le Phare de ce vendredi 9 août 2013, concertation nationale, majorité opposition, l'épreuve des forces. Pour ce quotidien, le fossé qui s'était creusé entre la majorité présidentielle et l'opposition au lendemain de la publication de l'ordonnance présidentielle convoquant les concertations nationales s'est davantage élargi cette semaine. La goutte d'eau qui est sur le point de faire déborder le vase est l'annonce par le président de ce forum des thématiques et de la composition du secrétariat technique de la structure susvisée. Forum des As de son côté révèle, avec les consultation qui commence ce jour par la société civile, concertation, le présidium mise à rude épreuve, ce qui constitue donc un test grandeur nature de la suite des événements. L'observateur revient sur la déclaration du mouvement de libération du Congo MLC qui s'oppose à l'idée des mises sur pied de ce secrétariat technique et l'adoption d'un budget de concertation nationale. À l'observateur de renchérir, l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle de son côté, a appelé Léon Kengo Adundo à respecter les préalable posé par l'opposition pour participer aux concertations nationales. En parlant justement du secrétariat technique des concertations nationales, l'Avenir publie la liste des 18 membres faisant partie de ce secrétariat et on peut lire à sa une secrétariat technique des concertations nationales. Voici les 18 membres. Minaku et Kengo incluent toutes les tendances. Ce secrétariat technique est composé, précise la Prospérité, au total de 18 membres dont un coordonnateur adjoint, 14 conseillers thématiques ainsi que 2 conseillers financiers. Changeons de chapitre pour parler éducation, publication des résultats des épreuves de l'examen d'État 2011-2012. Le ministre de l'EPFP, Maker Mwangu, affirme que sur l'ensemble du territoire national, le taux de réussite a baissé d'environ 6% par rapport à l'année passée. C'est ce qu'on peut lire sur le site de Radio Okapi. Cette situation peut s'expliquer, selon certains analystes, par la baisse du niveau de l'éducation en RDC.
Joachim Diana Gikoupa, je rappelle que vous êtes éditeur et directeur de publication du journal La Colombe, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine est aussi marquée par la situation sécuritaire au Nord Kivu. Et dans cette province, la société civile appelle la population à observer une journée ville morte mardi 13 août en mémoire des victimes de la guerre du M23. Et par la même occasion, elle demande au chef de l'État de relancer sous 72 heures des actions militaires pour récupérer les localités occupées par le M23. Vous avez un petit commentaire?
J'apprécie les efforts de la société civile du Nord Kivu, mais je regrette en fait que la société civile ait emboîté le pas à la MONUSCO en faisant encore un ultimatum, ça ne valait pas la peine de faire un ultimatum. Un ultimatum, c'est un langage de force. Mais on constate qu'après l'expiration de l'ultimatum, la société civile fait encore ses activités normales, c'est-à-dire organiser sit-in et tout. Et au lieu de s'arrêter là, encore un ultimatum au chef de l'État, en 72 heures, vous devez commencer les opérations
militaires. Mais ce n'est que le rôle de la société civile, être un groupe de pression.
Oui, groupe de pression par les moyens connus par... je pense que faire...
Les moyens démocratiques, bien sûr.
Tout à fait, comme les sit-in, comme la marche, comme les déclarations. Mais un ultimatum, par exemple, à la MONUSCO, de quitter, vous savez que ça dépasse largement la société civile. Et je peux même aller même plus loin, ça dépasse même le gouvernement congolais qui, avant de prendre cette décision, il y a le conseil de sécurité, ça demande beaucoup de choses. Mais pourquoi aller légèrement faire un tel ultimatum? Et aujourd'hui, l'ultimatum au gouvernement, au chef de l'État, de lancer les opérations dans 72 heures. Mais lancer les opérations, ce n'est pas comme dit, même pour aller aux toilettes, on doit en avoir besoin, et on doit apprêter tout. Donc, pour mener les opérations, il faut que ça ait été préparé, ainsi de suite. Ça ne peut jamais être dans 72 heures. L'ennemi sait que dans 72 heures, on va nous attaquer.
Merci, Joachim Diana. Justine Louboula, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal La Prospérité. Et l'actualité cette semaine a été aussi marquée par la province de l'Équateur, où le gouverneur Louis-Alphonse Coagialo, près de deux mois après son élection à la tête de cette province, a fixé les priorités de son action. Et selon le gouverneur, son action sera axée sur l'eau, l'électricité et la réhabilitation des routes dans cette province. Un petit commentaire.
Je salue cette initiative d'aménager un programme pour élever la province de l'Équateur. La province de l'Équateur, c'est une des grandes provinces du pays qui est en recul de production, en recul des infrastructures, en recul de carence d'eau, carence d'électricité. C'est vrai que ce sont des bonnes idées, mais est-ce qu'il a les moyens? Il a les moyens pour le faire, et il va le faire pendant combien de temps? Bon, s'il peut amorcer quelques actions, tant mieux. C'est en fait pour marquer d'une empreinte sa présence, son autorité dans la province de l'Équateur. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour élever cette province-là.
Mais il faut commencer quelque part.
Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit je salue l'initiative, parce que on s'élance dans cette idée-là de pouvoir élever une province. On est conscient. Je crois qu'il doit avoir déjà fait un état des lieux pour pratiquement prioriser certaines actions. Comme il a dit, c'est une bonne chose, mais nous allons attendre, nous allons observer comment il va s'y prendre, quels sont les moyens qu'il dispose. Et je crois qu'au niveau du gouvernement, il y a aussi un plan pour améliorer les infrastructures routières, notamment. Et dans la province de l'Équateur, j'étais là une fois, j'ai vu comment ça évolue, mais je crois que c'est un morceau dur pour lui. Tant mieux qu'il avance par quelques actions.
Passons au débat, Baloufira. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter à la radio Le Messager du Peuple au Vira, et vous êtes aussi correspondant de l'ONG Journaliste en Danger. Quelle est l'actualité à la une aujourd'hui au Vira, où vous êtes?
Oui, par rapport à l'actualité au Vira, il faut dire que l'actualité qui cartonne et qui frappe au Vira, parce que les députés nationaux élus de la circonscription électorale de Vira ont tenu une conférence, des entretiens avec les responsables des groupes rebelles de Maïmaï hier à la salle de CRH, et avec eux, il était question de discuter par rapport à leur volonté manifeste de vouloir intégrer les FRDC. Donc la population a salué énormément les initiatives entreprises par les députés, en ce sens que les députés veulent à ce que la partie d'Ouvira, qui est souvent menacée dans la partie haut et moyen plateau par des conflits armés, tantôt ce sont des pillages, tantôt ce sont des affrontements et par des groupes Maïmaï qui perturbent l'ordre public là-bas. Et donc la population a parlé de l'initiative, et je pense que cela, avec certains journalistes qui disent que cela a valu à ces députés-là une confiance de la part de la population. À Bukavu également, il y a les questions de sécurité qui commencent à refaire surface. Et dans les quartiers 30 TV, dans les quartiers dans TV, dans la commune de Kadutu, où un militaire s'est fait tuer par un autre militaire après des disputes dans la nuit du mercredi au jeudi. Donc le quartier Karal est réputé comme étant le quartier criminogène de Bukavu. Donc ce fait, ça a été l'actualité par rapport au diplôme d'État. Maintenant, le Sud Kivu, les élèves commencent à accéder aux résultats de l'examen d'État. Par le biais de Vodacom en cliquant des messages sur mon sort, qui cartonne maintenant à la province du Kivu.
Merci, patient Debaba Lufira. Sans tarder, nous passons à notre premier thème pour l'émission de ce soir. Concertation nationale, le MLC se dit contre la nomination d'un secrétariat technique et l'adoption d'un budget. Ce parti politique estime que cela révèle la volonté manifeste du pouvoir de persévérer dans la logique des concertations convoquées et organisées de manière unilatérale. En outre, aucune des propositions de l'opposition n'a été prise en compte. Ce parti l'a dit au cours d'un point de presse mercredi à Kinshasa. Son secrétaire général Thomas Luaka nous le dit ici au micro de Nadine Foula.
Nous avons suivi les déclarations du président du Sénat qui annonce la mise en place d'un secrétariat technique, l'adoption d'un budget pour les concertations nationales. Nous pensons que les pouvoirs restent dans la logique d'une convocation et organisation unilatérale et autoritaire des concertations ou du dialogue national. L'opposition déclare que dans ce cas-là, elle n'est pas concernée parce que toutes les préoccupations dont nous avons fait part à l'opinion nationale et au pouvoir en place dans notre déclaration du 1er juillet 2013, aucune de ces préoccupations n'a été prise en compte, en particulier la mise en place d'un comité préparatoire paritaire.
Dans le même contexte à Kinshasa, le parti politique UNC se dit surpris des démarches entreprises par le président du Sénat pour préparer les concertations nationales. Selon l'Union pour la Nation Congolaise, Léon Kengoua Dondo, qui est en même temps président de l'UFC, un parti de l'opposition, doit respecter les préalables fixés lors de leur dernière conclave. C'est entre autres la tripartite opposition majorité et société civile. Déclaration faite le même mercredi lors de la réunion de la direction politique de ce parti cher à Vital Kamerhe. Le député Jolino Makelele, président de l'interfédéral de l'UNC Kinshasa, est au micro de Nadine Foula.
La grande majorité des membres de l'opposition a réaffirmé son attachement à des préalables pour aller au dialogue. Et parmi ces préalables, il y avait la constitution d'une commission paritaire technique chargée de préparer ce dialogue. Et nous avons également exigé une médiation internationale. Nous avons demandé également que, en vue d'asseoir la cohésion nationale, que la partie majorité présidentielle prennent l'engagement devant la nation qu'on ne touchera pas aux articles de la Constitution. Et nous nous sommes surpris d'apprendre que le président du Sénat s'est permis donc d'aller au-delà de ce qui avait été arrêté par l'ensemble de l'opposition, dont fait partie l'UFC du président Léon Kengoua Dondo. Donc cette démarche cavalière, nous ne l'avons pas du tout appréciée. Nous nous en tenons à nos préalables tels que accepté également par l'UFC.
Il faut signaler que le secrétariat général près le présidium des concertations est enfin connu. La décision rendant publique les membres du dit secrétariat a été rendue publique hier jeudi 8 août. Il est constitué d'une coordination et d'un collège des conseillers thématiques et financiers. Au total, 18 membres dont 2 femmes. Joachim Diana Gikupa, comment est-ce que peut-on analyser l'attitude de l'opposition au sujet de ces concertations nationales?
Moi, je ne suis pas surpris, ce n'est pas un coup de théâtre. Quiconque connaît l'opposition congolaise savait qu'on en arriverait là. Et je vais commencer par le MLC avec Thomas Luaka qui estime que le budget ne devrait pas venir de celui qui a convoqué. Mais c'est quand même un non-sens. C'est lui qui convoque les concertations, c'est celui qui gère l'État. Parce que vous savez aussi que les concertations n'étaient pas budgétisées, les députés sont là. Donc, c'est celui qui sait où est-ce qu'il va racoler à gauche, à droite, pour construire le budget. C'est normal, il sait combien de gens il va inviter, ainsi de suite, et il prévoit le budget. C'est tout à fait normal. Vous savez qu'au départ, l'opposition, lorsque le chef de l'État avait lancé les concertations, ils ont dit, ah mais les concertations au contour flou, au contenu inconnu. Mais ce qui veut dire qu'ils attendaient que le président de la République donne le contour de ces concertations et qu'il en donne le contenu. Au moment où il en donne par une ordonnance, ah non, il ne fallait pas qu'il le donne, et il faut qu'un comité préparatoire. Or, justement, au départ, les gens devraient commencer par demander le comité préparatoire, et pas de dire que le contour était flou.
Donc, on a l'impression que l'opposition tient à ce que le pouvoir en place se conforme à ses points de vue par rapport à ces concertations.
Mais tout à fait. Et cela, vous pouvez le remarquer dans les déclarations de l'UNC qui sont vraiment, je ne sais pas comment les qualifiés. Ils disent qu'ils avaient demandé à ce qu'il y ait un comité préparatoire. Bon, et ils avaient demandé sur la médiation nationale. À suivre les médias, j'ai appris que le présidium a traversé pour aller à Brazzaville. Et si le présidium va à Brazzaville, c'est-à-dire que sur les deux préalables qu'ils ont demandé, composés ensemble, si... Le présidium cède à un des préalables. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Mais l'autre préalable, je me demande, il vient d'où? L'autre préalable, c'est que le gouvernement doit déclarer qu'il ne va pas réviser la constitution. Mais comment vous pouvez poser un préalable? Parce que on connaît maintenant le contenu de concertation. On connaît le contour. Nulle part où on a parlé de la révision de la Constitution. Mais pourquoi eux demandent qu'on se prononce pour quelque chose qui n'est pas prévu? Mais tu vois que tout ça, nous savions que l'opposition sait qu'il faut par tous les moyens démontrer à la face du monde que le chef de l'État n'a pas convoqué de son gré les concertations. Il faut montrer qu'il y a cédé par pression. Et lorsque on dit qu'il a cédé par pression, cette opposition va trouver un peu de lettres de noblesse auprès de l'opinion. Nous n'étions pas là. Nous avons poussé Joseph Kabila jusqu'aux concertations. Un peu comme on dit, on avait poussé Mobutu à la conférence nationale souveraine. Les gens veulent refaire le schéma dans des circonstances tout à fait différentes.
Mais Joachim Diane, toujours pour vous compléter, mais qu'est-ce que ça coûte au pouvoir de céder aux demandes de l'opposition par rapport au comité paritaire pour préparer ces concertations?
Mais c'est ce que j'ai dit. Si l'opposition estime que le gouvernement n'a pas à proposer, celui qui vous convoque, celui qui prend l'initiative, n'a pas à vous convoquer, mais qu'il convoque eux-mêmes, parce que le pouvoir est dans la rue, qu'il convoque eux-mêmes. Parce que s'ils estiment que non, ce n'est pas Kabila qui a convoqué les concertations, c'est plutôt l'accord cadre. Mais que l'accord cadre leur donne tout ce qu'ils demandent. Parce que lorsque nous on est allé à Saint-Cite, le mot d'ordre n'est pas venu du pouvoir de Kinshasa. Ceux qui sont à Kampala, ce n'est pas venu, c'est le médiateur choisi par la communauté internationale elle-même. S'ils estiment que le pouvoir de Kinshasa n'a rien à voir dans ces concertations ou dans le dialogue, comme on l'appelle, mais qu'ils demandent à celui qu'ils estiment que c'est à lui que ça revient, qu'ils aillent lui demander tout cela. Pourquoi les demander à Kabila si celui-là qui vous le donne n'a aucun mot à dire? Il n'y a que l'opposition qui a tout à dire. C'est impossible, ça.
Justine Lebeau, l'opposition revendique, entre autres, la mise en place d'un comité préparatoire paritaire pour organiser ces concertations nationales. Comment est-ce que vous analysez cette condition que ces partis de l'opposition posent comme préalable?
Enfin, vous savez qu'il y a, une contradiction dans l'opposition. La contradiction va d'abord de la réclamation des concertations nationales. En fait, dans la classe politique, tout le monde a réclamé les concertations nationales. Le chef de l'État a convoqué, justement, pour répondre à cette nécessité. Voilà qu'il convoque les concertations, il y a encore des remous. Il y a ceux-là qui ont récusé sa qualité, ils ont estimé qu'il n'était pas légitime pour convoquer les concertations, et bien plus, ils reviennent pour dire non, il doit rapporter son ordonnance pour convoquer le dialogue. Un jeu de mots. Mais si vous réclamez le dialogue, mais c'est auprès de cette personne dont vous refusez la légitimité que vous revenez encore pour réclamer qu'il prenne une ordonnance convoquant le dialogue. Donc c'est une contradiction que je n'arrive pas à comprendre. Mais aujourd'hui que le bureau a été institué, aujourd'hui qu'il y a eu nomination du secrétariat technique, eh bien les thématiques ont été fixées. Je crois qu'il revient à l'opposition de pouvoir s'organiser pour participer aux concertations et faire valoir leur position au sein de ces concertations-là. Le moment venu, quand on va ouvrir les débats, que chaque parti puisse avancer ses idées. Je crois que c'est le moment opportun, parce que maintenant, là, on ne peut pas faire un retour en arrière. Non, je crois que c'est pas possible. Et dans le cas d'espèce, c'est que, eh bien, les concertations vont se tenir. Ceux-là de l'opposition qui vont se marginaliser, ils vont rester à l'écart. Je sais qu'au sein de l'opposition, il y aura toujours un groupe qui va participer aux concertations. Et cette scission-là permettra de dire, si tu permets, permettra de dire que ceux-là qui sont partis aux concertations, ils sont inféodés au pouvoir. Ceux-là qui sont restés, c'est une classe saine. Eh bien, ça va évoluer comme ça.
Si je comprends bien, l'opposition devrait se conformer à ce que propose la majorité.
Non, mais parce qu'il y a les thématiques qui sont fixées. Dans les thématiques, je crois que l'opposition peut s'organiser pour qu'un groupe puisse, par exemple, participer à telle thématique. pour discuter, échanger et donner des propositions. Tel autre groupe pourra prendre une autre thématique, intervenir dans ce sens-là. Mais quand vous commencez à récuser les tout finalement, qu'est-ce qu'on veut? La crise, que la crise s'accentue, que la crise s'amplifie, à qui ça va profiter?
Passons débat, Baloufira. Une certaine opinion estime que la majorité présidentielle est totalement obstinée ou décidée à tenir ses concertations nationales, et ceci sans tenir compte des desiderata de l'opposition. Comment est-ce que vous analysez cette opinion?
Ben, écoute, la concertation nationale est une affaire nationale, et la conséquence est que c'est une affaire qui concerne toutes les couches sociopolitiques telles que précisées dans la motivation de l'ordonnance signée en date du 26 juin par le chef de l'État. Donc, si la majorité présidentielle estimera à son côté qu'elle va finir ses concertations nationales sans pour autant associer les autres parties prenantes de cette concertation, je pense que ça serait le vide de procédure, et cela ne nous amènera pas à aucun changement, et cela va encore nous mener au cycle des concertations nationales sans pour autant produire des fruits plausibles. Pourquoi je dis ceci? Parce que si la majorité présidentielle estime de cette manière, ça serait aussi aller à la compte là que le chef de l'État a donné à son ordonnance quand il a dit exprès verbis dans son ordonnance qu'il faudrait associer toutes les couches, les parlementaires, les opposants parlementaires et extra-parlementaires. Il y a même à l'article 5, vous allez voir que l'Assemblée plénière est composée des chefs coutumiers. Vous allez voir qu'il ne parle pas non plus déjà. C'est tout cela dans le but d'assembler toutes les couches sociales.
Passons débat, vraiment, votre ligne est vraiment dégradée. Si vous pouvez tenter de vous déplacer encore, ça serait beaucoup mieux. Mais pour l'instant, nous revenons ici au studio. Joachim Diana, à l'issue du conclave de l'opposition du mois de juillet dernier, la déclaration finale avait été lue par un cadre de l'UFC, parti du président du Sénat. Est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas raison lorsqu'elle fustige l'attitude du président du Sénat?
Non, tout à fait. Il y a beaucoup de confusion, notamment le fait pour l'opposition de prendre le président de la République et de le mettre dans la majorité purement et simplement. Ça, c'est ça qu'on manquait de... Même c'est le minimum de la connaissance du fonctionnement même des institutions. Un président de la République a beau être élu sur la liste ou par une majorité, a beau appartenir à une majorité, mais lorsqu'il est président de la République, il est au-dessus de partis politiques, il est au-dessus de composantes qui puissent exister. Et donc, ici, le chef de l'État convoque et la majorité et l'opposition. Ce n'est pas que le chef de l'État, il se met du côté de la majorité et la majorité avec lui convoque l'opposition. Non, c'est le chef de l'État qui convoque et la société civile et la majorité et l'opposition. Donc, on doit, si on n'arrive pas à se faire cette idée-là, c'est un peu difficile. Mais voyez le Kengo, et c'est pour cela, lorsqu'on ne comprend pas déjà cela de la part du chef de l'État, on ne peut pas le comprendre de la part de Kengo, qui est un homme d'État, qui est président du Sénat, et qui apparemment a été appelé à résoudre ce problème compte tenu de la position qu'il occupe au niveau du Sénat. On a pris le président de deux chambres. Si M. Kengo s'est dit non, moi, en tant que président du Sénat, j'agis selon les positions de mon parti politique, alors que demain, on ne se plaigne pas. Lorsque Minaku, à la tribune de l'Assemblée nationale, prendra fait et cause pour les positions déjà de la majorité qui vont intervenir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'on voudrait aujourd'hui que Kengo adopte cette attitude-là. Mais lorsque Minaku l'adopte, ou Kengo lui-même l'adopte pendant les débats au Parlement, je suis issu de tel parti politique, donc je vais dans le sens de position de tel membre. Mais il n'y aura plus de Parlement dans notre pays.
Mais Joachim Diana, en deux mots, que faut-il alors pour aplanir les divergences et apporter un consensus afin que nous puissions organiser ce forum national?
Ben, en fait, moi je pense même avoir d'ailleurs le secrétariat technique, on n'en a pas parlé. J'ai l'impression qu'on a affaire à un secrétariat d'un symposium scientifique, alors qu'il fallait un secrétariat d'une rencontre politique avant tout. Bon, et ça, on en parlera peut-être autrefois. Mais ce qu'il faut, c'est que l'opposition dise clairement ce qu'elle attend de ces concertations ou de ce dialogue. Si l'opposition attend qu'il y ait l'eau, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait des routes, qu'il y ait bonne gouvernance et tout ça, et que cette bonne gouvernance soit appliquée par les gens qui sont au pouvoir et que qu'ils puissent en rendre compte à la fin de leur exercice, je pense que tout ira bien. Mais puisque les gens ont des idées cachées, et c'est là où les choses ne marchent pas.
Justine Luboula, quelles concessions les deux parties pourraient se faire mutuellement et qui seraient susceptibles de débloquer la situation?
Non, mais la première concession pour le chef de l'État, c'est d'abord d'avoir convoquer les concertations, parce que ça a été réclamé par l'opinion nationale, par la classe politique, ce qu'il a fait. Et je crois qu'au niveau de l'opposition, c'est accepter de participer aux concertations, avec une garantie, c'est qu'il y a M. Léon Kengouadoundou, qui est de l'opposition, qui a participé au conclave délimité, et qui peut, en tout cas son parti a participé, qui peut bien rassurer. Il peut bien rassurer l'opposition pour dire que je connais les conclusions qui sont issues du conclave et nous allons faire en sorte qu'avec votre présence aux concertations, nous allons essayer de débattre sur certaines questions que nous avions arrêtées au conclave. Je crois que Kengouadoundou peut représenter comme une garantie pour l'opposition de telle sorte qu'on ne puisse pas déborder, à moins que l'opposition dise non, en tout cas nous refusons Kengo. C'est comme s'il fait les jeux du pouvoir. En ce moment-là, il commet une grosse erreur.
Merci, Justine Luboula. Passons au débat Baloufira. Que faut-il pour sortir de cette crise politique en RDC?
Avant de proposer les pistes de solutions, il faut dire que d'abord, au niveau de l'opposition, il y a une crise de confiance, en ce sens que Kengouadoundou semble ne pas garantir l'opposition parce que il regrette du fait que Kengouadoundou, faisant partie prenante du conclave de l'opposition, parvenir à respecter les résolutions du second plan de l'opposition. Et donc, cela pose d'abord un problème dans le chef de l'opposition qui n'est pas d'abord uni, qui n'est pas d'accord sur un certain nombre de points. Dès lors que Kengouadoundou ne présente pas une garantie pour l'opposition, pour défendre les intérêts de l'opposition, c'est déjà un problème. Alors, que faut-il faire maintenant? Moi, je pense que la majorité présidentielle, le président en l'occurrence, doit vraiment, encore une fois, de plus examiner. Il doit encore déjà faire la conception telle qu'il a fait, ce qu'il a effectué en convoquant la concertation nationale. Il doit examiner les questions de forme. Là, nous sommes encore aux questions de forme. Et la forme a toujours biaisé la procédure. Tout peut tomber dans l'eau quand on a biaisé la forme. Quand je propose ceci, je pense qu'il n'est pas question de rétorquer, il n'est pas question de jeter les bébés avec l'eau de son bec. La majorité réévalue encore une fois depuis les révalidations de l'opposition, afin qu'on finisse les partis se mettent d'accord et discutent sur l'ensemble des problèmes qui touchent qui gangrène la République démocratique du Congo, afin que nous puissions accéder à la cohésion, à la pacification de notre pays qui est de plus en plus menacé par un cycle de violence qui caractérise notamment la partie est de la RDC. Il faut donc se dire ceci, par rapport à ce que nous qualifions maintenant comme étant le fruit du jardin d'Eden de la République démocratique du Congo, celui du mandat du chef de l'État. Vous allez vous rendre compte que l'article 10, si je ne m'abuse pas, de l'ordonnance signée par le chef de l'État qui donne des thématiques. Il y a les premières thématiques, les gouvernances, démocratie, réformes institutionnelles. Là où les bas baissent, au niveau des réformes institutionnelles. L'opposition a, je pourrais le dire, peur par rapport à ces premières thématiques qui est révision de la Constitution et qui va, par conséquent, toucher à ce que nous appelons aujourd'hui le fruit du jardin de la République démocratique du Congo. Et donc, il est question que l'opposition aussi ne puisse pas tout rejeter dans la majorité présidentielle. Tout l'essentiel est d'aller aux négociations, soit aux conciliations. Il faudrait qu'il y ait des concessions partout. Dans des concertations, on ne doit pas prétendre que toutes les revendications fournies seront à 100% respectées. Par la conséquence, que chaque parti doit faire des concessions afin de s'attendre. Sinon, nous allons
merci, rester patient.
Avec tout ce que nous avons comme problème, bonne gouvernance, mauvaise application des textes de la décentralisation, les conflits vont persister.
Merci, patient.
J'ai aimé la motivation pour terminer le chef de l'État quand il a dit que c'est pour préparer une réponse complète vis-à-vis des partenaires régionaux et internationaux. Et donc, la RDC ne sera pas à même de donner une réponse suffisante par rapport à ses partenaires régionaux et internationaux, dès lors qu'au niveau national, il n'y a pas de réponse pertinente capable de faire valoir les prétentions de la République démocratique du Congo dans le but
merci,
de faire vouloir prévaloir la paix c'est la cohabitation pacifique en RDC.
Merci, patient de Babaloufira. Et sans transition, nous passons à notre deuxième sujet de ce soir. Depuis près de 3 ans, on assiste à la baisse du taux de réussite aux examens d'état en RDC. Il est passé de 69% en 2011 à 62% en 2012 et puis 52% en 2013 pour la ville de Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Makier Mango. C'était au cours de l'émission Parole aux auditeurs du Radio Capi du lundi dernier. Le ministre de l'EPSPA a annoncé que des mesures drastiques seront prises à l'encontre des différents chefs d'établissement où les résultats ont été les plus mauvais, surtout ceux qui n'ont enregistré aucune réussite. On l'écoute au micro de Pierre et la Mégé.
Nous avons posé des questions, les enfants ont répondu, nous avons corrigé. C'est après maintenant qu'il faut évaluer pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais d'emblée, bon, nous sentons quand même, nous avons senti une baisse au niveau de l'encadrement. C'est pourquoi un certain nombre de mesures ont été prises pour réveiller un peu les gens, pour que l'encadrement soit beaucoup plus efficace, l'encadrement de nos élèves, l'encadrement des écoles.
Quand vous parlez de la baisse au niveau de l'encadrement, ça se situe effectivement à quel niveau ?
Mais c'est à plusieurs niveaux. Quand vous allez au niveau de l'école, vous avez les enseignants, nous avions demandé à ce que régulièrement qu'il y ait des unités pédagogiques par exemple. Est-ce que ces unités pédagogiques se tiennent réellement? Ça, maintenant, la responsabilité incombe directement au chef d'établissement. Et à côté du chef d'établissement, nous avons installé des comités de gestion au niveau de chaque école. Si le chef d'établissement ne fait pas très, très bien son travail, nous avons mis en place des responsables, des parents qui doivent de temps en temps veiller sur le bon fonctionnement de l'école. Qu'est-ce que ces comités a pu faire pour aider le chef d'établissement à améliorer l'encadrement de l'école? Maintenant, si à ces deux niveaux-là, nous faisons une évaluation, on peut un peu remonter au niveau des sous-provettes et au niveau de nos inspecteurs, chefs de poule, poule primaire comme poule secondaire. C'est à ces niveaux-là que nous allons voir aussi pourquoi nous avons eu très peu de résultats. Est-ce que l'inspecteur chef de poule a fait des rapports, a beaucoup visité ces écoles ou qu'est-ce qui s'est passé?
Au Maniema, le taux de réussite de ces épreuves des examens d'État est de 26% en 2013. À Kindu, le chef-lieu de la province, certains chefs d'établissement scolaire redoute la pléthore dans les classes de 6e à la prochaine rentrée scolaire. Des sources sur place indiquent que 7 finalistes du secondaire sur 550 ont reçu en section pédagogie, soit environ 1,3% sur l'ensemble de la province du Maniema. Le point avec Mathieu Ilunga.
C'est le cas par exemple des instituts de Kindu, des diplômés en pédagogie générale sur 180 candidats. L'institut du Oudi, sur 182 candidats, toujours en pédagogie générale, 5 réussites. Et à l'institut Girani, ces 186 candidats ont tous échoué. Ces trois écoles totalisant environ 550 élèves ont pour résultat 7 diplômés, soit environ 1,3%. Une véritable catastrophe. Par ailleurs, les autres écoles donnant habituellement de bons résultats en commercial ont eu aussi des résultats décourageants. C'est le cas du complexe La Fontaine, une école privée, un seul diplômé. L'Institut de l'Enano, une école de frémaristes, aucun diplôme en commercial. Les autres écoles, comme l'Institut Le Collet, le complexe Tungan et Mpogno, n'ayant, selon certaines sources, le résultat général pour la province serait de 26%. Interrogés à ce sujet, certains chefs d'établissement se posent la question de savoir comment vont-ils fonctionner l'année prochaine sur le plan effectif des élèves dans les classes de 6e. Ainsi demande-t-il à l'autorité compétente l'agrément du nombre de classes de 6e. Kindu, Mathieu Ilunga Chambua Monachebe, Radio Okapi.
Justin Luboula, nous venons de suivre ce cas d'illustration de Kindu. Comment est-ce que vous analysez cette baisse du taux de réussite aux épreuves des examens d'état en RDC?
Ça tient à plusieurs facteurs. Vous savez, quand Makier Mangou est arrivé au ministère de l'EPSP, dès le départ, il y avait une rigueur telle que les deux premières années de son règne, à la tête de ce ministère, il y avait beaucoup d'échecs, ce qui avait provoqué un déclic dans les chefs des élèves, qui étaient au niveau inférieur, pour se dire que maintenant, il faut étudier, parce que si on n'étudie pas, eh bien, on va échouer. On a enregistré... En tout cas, les années qui ont suivi, que les enfants réalisaient des bons pourcentages. Et donc, il y avait un effort qui était fourni. Mais il faut se dire que est-ce que maintenant, là, il n'est pas, c'est pas possible qu'on revienne à la première idée qui avait prévalu à l'époque de dire, eh bien, nous allons organiser les suivis, même si les enfants ne donnent pas les meilleurs d'eux-mêmes dans les salles de classe, eh bien, les chefs d'établissement, on sort, dit, nous allons organiser les suivis, et ça décourage automatiquement les enfants pour faire un bon travail, parce que ils se disent, bon, au finish, c'est le préfet qui va essayer de courir derrière les inspecteurs. Et donc, il faudra que le ministre prenne des dispositions. Je crois que je l'ai suivi tout à l'heure. Il dit qu'il va y aller par palier, d'abord au niveau des écoles, pour voir si les chefs d'établissement ne font pas un bon travail, les comités de parents dans les écoles, éventuellement voir au niveau des inspecteurs, des poules, et éventuellement les inspecteurs au niveau de la correction des examens d'État. Parce que ce sont des étapes qui doivent suivre pour vérifier et verrouiller de telle sorte que le rendement des élèves soit un rendement meilleur. Mais si il faut dire clairement par rapport à la situation qui est la situation actuelle, pour dire qu'on a enregistré une baisse des réussites au niveau des examens d'État, on comprend. Est-ce que les enseignants ont été à la hauteur? Est-ce que on a organisé les suivis pour vérifier ce que les programmes dans l'enseignement au niveau de la sixième année, les enseignants sont arrivés fin programme? Est-ce que tout ça, ce sont des étapes en fait qu'il faudra suivre pour amener, impulser dans les écoles de telle sorte qu'on obtienne un bon résultat. Donc c'est un travail de fond qui doit se faire. Et là, j'invite aussi le ministre, parce qu'il en est conscient, j'invite le ministre à faire un effort dans ce sens-là pour essayer de relever les niveaux. Mais aussi, il faut savoir que c'est pas tous les enfants qui réussissent aux examens d'État. Il y a des enfants qui accusent de faiblesse, même si vous faites comment. Moi, j'étais enseignant aussi, je suis passé par là. Mais il y a des enfants, même si vous expliquez comment la matière, il y a toujours des enfants qui ont un niveau très faible. Et vous ne pouvez pas, à ces stades-là, beaucoup se soucier pour ceux-là qui échouent. Peut-être les encourager pour que prochainement ils fassent mieux.
Joachim Derna, selon vous, quelles pourraient être les causes de ces échecs en cascade?
Mais je suis d'abord étonné que le ministre constate la baisse du niveau de l'enseignement seulement par les mauvais résultats aux examens d'État aujourd'hui. Mais il y a des années que l'on parle de la baisse des enseignements. Nous qui sommes dans les cerveaux, nous accueillons les gens qui viennent en stage, tout ça, on a des larmes aux yeux. Le ministre devrait savoir qu'on a instauré dans ce pays un culte des diplômes. Avoir les diplômes par tous les moyens, je me souviens des paroles de cardinal Malula qui disait « Un diplôme, c'est comme un carnet de chèques. Si vous n'avez pas de provision en banque, ce carnet ne vous servira à rien. » Mais voilà, les diplômes qu'on donne aux enfants aujourd'hui, ce sont des carnets de chèques sans provision. Donc, l'enseignement. Mais qui enseigne aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte que partout à travers le pays, ça, le ministre devrait être le premier à le constater, que toutes les sections pédagogiques disparaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens n'ont plus envie d'aller enseigner. Ceux qui ont fait l'enseignement, comme je serai aussi, moi aussi j'ai enseigné. Et on nous disait que ce métier-là, c'était un apostolat. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas où les gens ne veulent plus faire cet apostolat là-bas. Les sections pédagogiques disparaissent. Mais si on va même au niveau supérieur, constate, aller à l'ISP Gombe, qu'est-ce qu'il y a maintenant? On a mis toutes les sections possibles, hôtellerie, ceci, cela. Mais tout ça, on est en train de fuir l'enseignement. Et voilà les domaines qui devraient demander un dialogue national, un domaine où les opposants... Parce que sans cet enseignement, tout ce que nous, il n'y aura rien, pas de développement dans ce pays, sauf si on passe par l'enseignement. Et donc, culte de diplôme, disparition des sections pédagogiques, qui enseigne aujourd'hui? Allez voir, essayez de circuler dans les écoles. Allez voir que ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui ont tenté partout à voir. Ils se disent, bon, je passe quand même mon temps. Je vais perdre mon temps en enseignant. C'est très grave. Je pense qu'il faut réformer l'enseignement. Autant on apprécie les efforts du gouvernement à construire des écoles, mais il ne faut pas que ces écoles soient des tombeaux peints. Il faut qu'à l'intérieur, qu'il y ait effectivement un enseignement.
Oui, patient de Baba Loufira, que faut-il faire pour améliorer le système éducatif congolais?
Avant de dire que faut-il faire, il faudrait que je vous brosse un peu la réalité au Sud Kivu. Parce que ici, au Sud Kivu, il y a le phénomène qu'on appelle le phénomène Mutchele. Mutchele, c'est quoi? Ça veut dire les riz, tout simplement, en français. Pourquoi on dit le phénomène Mutchele? On suppose qu'on jette les riz dans des poulaillers, alors que ce sont les peuples qui vont venir en prendre. Ce phénomène consiste à ce que les élèves finalistes reçoivent des messages téléphoniques, s'il vous plaît, où il y a les séries de questionnaires et les réponses pour cocher. C'est ça ce qu'on appelle le phénomène Mutchele au Sud Kivu, particulièrement à Bukavu, à Ouvira et dans d'autres territoires. Mais ce phénomène a pris de plus en plus de l'ampleur dans notre province. Et cela a fait à ce que certains élèves ne puissent pas consacrer beaucoup de temps dans la lecture de leurs notes, dans les études, dans les cours, dans la lecture de notes. Et cela a affaibli. Il y a aussi l'aspect qu'il faudrait préciser, c'est la prolifération des écoles et des sections à la veille de la rentrée scolaire. Vous allez constater que des écoles qui obtiennent, je ne sais pas moi, dans telle manière, des agréments au niveau du ministère de l'enseignement, qui ouvre des sections à la veille des écoles et avec la conscience de manquer le personnel compétent. Les personnes sont de plus en plus incompétentes. Au-delà de lutter contre le phénomène initial, nous proposons ici à notre niveau qu'il faudrait que les mesures soient prises à l'encontre des gens qui servaient les questionnaires de l'examen d'État. Parce que tout vient de Kinshasa. Tout vient de Kinshasa, je vous dis, il y a des messages qui viennent de Kinshasa où on envoie à des élèves les séries. Les réponses, les séries, pour moi, série 4 numéro combien. Il faudrait qu'il y ait une séance au niveau de l'EPST, la même. Donc, le ministre doit être à mesure de contrôler son équipe de collaborateurs au niveau des élèves. Une autre chose, si cette ampleur évolue, c'est parce qu'il y a une parfaite collaboration entre les élèves et les chefs d'établissement. Je pense que si le ministre a bien dit qu'il y aura des sanctions, c'est le moment, parce qu'il est déjà en retard. Je rappelle ici qu'il est au pouvoir, qu'il est le ministre en charge de l'EPST depuis 2006. Aujourd'hui, c'est pratiquement 7 ans. S'il fait aujourd'hui, qu'il le fasse, nous allons l'encourager, mais je pense qu'il y a plus que temps pour que les sanctions sévères puissent aller à la compte des chefs d'établissement. Il y a aussi l'aspect, je ne sais pas, c'est une proposition qui paraît un peu non réalisable. C'est à travers le message téléphonique, chez mes confrères, les messages téléphoniques ont contribué en grande partie à l'échec de plusieurs élèves. Ici, aussi, vous, le gouverneur n'a pas cessé d'appeler aux gens à la lecture, d'appeler les élèves à la lecture et de sensibiliser même le chef de l'établissement. Les organisations de la société civile ont sensibilisé
à
mettre le chef de l'établissement. Alors il faudrait qu'au niveau des opérateurs de la téléphonie mobile, je ne sais pas
si
il y a des interruptions déjà de messages qui transmettent les fausses informations. Une autre proposition, moi je pense que les députés au niveau national devaient s'en saisir de cette situation. Les résultats de l'examen d'État, je vous dis que d'abord l'examen d'État c'est une question nationale. Et la bonne formation de la jeunesse congolaise constitue un gage pour la nation congolaise.
Merci, patient.
On ne peut pas se mettre en lice la jeunesse, la force de demain, sans pour autant examiner comment est-ce qu'elle est encadrée, comment est-ce qu'elle étudie, comment est-ce qu'elle évolue, pour que finalement elle respire qu'elle est une force de demain. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est encadrée?
Merci, patient.
Une jeunesse qui est entraînée dans la corruption. Encore vous allez vous attendre à cette jeunesse.
Merci, patient Joachim Diana. En un mot, puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission, que faut-il faire pour améliorer le système éducatif congolais?
Je l'ai toujours dit, il faut vraiment qu'il y ait un séminaire ou quoi, je ne sais pas, état général ou quoi, où ce n'est pas où on va parler salaire, ceci, cela d'abord, mais qu'on réforme notre enseignement. On constate que notre système d'enseignement est tout à fait dépassé. C'est un système d'enseignement qui est en adéquation totale avec le besoin de la société. Il faut réformer cet enseignement. Cet enseignement que nous avons, tout ce qu'on est en train de faire, c'est comme si on était en train de donner des médicaments à un mort.
Oui, Justine Louboula, je termine avec vous.
Je crois qu'il faut aller à la base, parce que quand on se met à former les élèves qui sont déjà en sixième année, je crois qu'on fausse la démarche. Il faut commencer par la pépinière. Et à ce moment-là, qu'on mette des dispositions appropriées au niveau de la pépinière pour qu'à la longue, on puisse avoir une élite qui répond pratiquement aux besoins de la nation.
Oui, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Nous étions également dans cette émission avec Joachim Diane Nagikoupa. Il est éditeur et directeur de publication du journal La Colombe, qui paraît également à Kinshasa. Et Patient Deba Baloufira, journaliste et reporter à la radio Le Messager du Peuple à Ouvira, et correspondant de l'ONG Journaliste en Danger ici à Grand Lac, au sud Kivu. La fin de cette émission. La partie technique était assurée par Dieudonné Nyangasa. Kéline Kout était à la réalisation de cette émission. Samuel Kachak vous l'a présenté sous la supervision de Julien Nyamouni. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.